100% parler, tout l'été.
Est-ce que vos patrons font ça, essayer d'être le meilleur boss l'été, mettons? Parce que le nôtre, il s'en va en vacances pour 2 semaines, puis j'ai l'impression qu'il veut être sûr qu'on est content, qu'il se fera pas appeler pour des désagréments mineurs, et aussi pour laisser dans notre tête un genre de... Je sais pas, moi, une belle idée de lui ou...
Mais on un beau gâtés. Souvenir.
On a été gâtés, là. Notre boss Steven qui s'en va en vacances puis qui cogne pendant la pause publicitaire pour nous donner des biscuits Subway avec toutes les sortes possibles, son grand plateau. On dirait que c'était genre le messie qui distribuait le pain là, pour la suite de l'été.
Mais en même temps, c'est peut-être juste parce qu'il est content, tellement content de partir en vacances qu'il se sent généreux.
Il se sent de bonne humeur. Le soleil est là. C'est le cas à Québec. Hier, c'est une journée un petit peu plus pluvieuse. Mais là, on a 22 degrés, vous allez me dire, c'est pas super chaud, Pascal. Oui, c'est vrai, c'est pas super chaud, mais c'est quand même bien. 22 degrés jusqu'à 25, c'est ça pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, on ouvre les fenêtres. On lâche l'air climatisé, on ouvre les fenêtres. C'est 13, on laisse rentrer de l'air frais. Il y a pas de feu en ce moment ou l'apocalypse comme cette semaine. Ça sent pas le mauvais gaz dehors. Fait qu'on aère la maison. Demain, on referme ça, par exemple. On referme ça très tôt le matin. C'est de la pluie, ce sont des averses pour toute la journée. 19 degrés, c'est le maximum. Martin Garrix va vous réchauffer sur les plaines d'Abraham. Il y a un risque d'orage en après-midi, mais juste des averses pour la suite. Fait que c'est un gros 25 mm de pluie, mais le show devrait avoir lieu. Martin Garrix, sa musique, le DJ set, c'est ça qui va vous réchauffer. Mettez-vous un poncho pour aller vous amuser au Festival d'été de Québec. Ce soir, c'est Muse, vous allez être correct. Et dimanche, c'est Jelly Roll. Un peu le même concept que pour Martin Garrix. Donc, on va mettre des bottes de pluie si vous n'en avez pas. On s'en va acheter ça. Par contre, sur les réseaux routiers, on reste prudent et patient parce que les 200 travailleurs de la construction sont officiellement en congé ou presque là, à cette heure-ci. Il y en a qui partent un petit peu plus d'avance. Puis, mettons les secteurs chauds, si tu pouvais les rappeler rapidement, Mathias, ce serait...
Oui, 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, c'est au rouge. Même chose, 20 direction est entre Taniata et la 73 cette fois-ci. Sur la rive nord, c'est vis-à-vis Capitale entre Pierre-Bertrand et Boulevard Masson en direction est. En direction ouest, à hauteur de Laurentienne qui a certains problèmes, autant Capitale direction ouest que Laurentienne pour entrer sur Capitale. Et je termine avec Henri IV direction sud à hauteur de Charest. Un peu de ralentissement aussi dans le secteur.
La grosse voix digne d'un crooner, c'est pas celle de Michael Bublé qui est resté plus longtemps Québec, c'est celle de Mathias Turcotte et on sera avec vous chaque jour de 11h à 14h. Là, on termine l'émission avec quelqu'un qu'on apprécie fortement qui travaille fort pour la ville de Québec. On va y parler dans quelques instants, mais 2-3 nouvelles, là, Mathias, qui sont importantes aujourd'hui.
Oui, Daniel Jolivet, un Montréalais qui affirme avoir été jugé à tort pour un quadruple de meurtre, aura finalement droit à un nouveau procès. L'homme de 68 ans qui était emprisonné depuis maintenant 33 ans.
C'est un calvaire, là.
C'est énorme.
S'il n'est pas coupable, c'est ma vie au complet plus un an en prison pour rien.
Pour de quoi qu'il n'a pas commis.
Puis quand j'y pense, pensez-y, là, en 30 ans, qu'est-ce que vous avez réalisé, là? Quel genre de choses vous avez fait? Prenez tout ça, mettez ça devant vous, puis dites-vous, c'est le temps que ça a pris en prison avant qu'il puisse se faire entendre. Moi, je veux dire, là, il y a des affaires là-dedans et il y a des affaires là-dedans. Puis dans ce 30 ans-là.
Oui, oui, 100%. Puis
la 3-4 vies. Là.
La raison pourquoi on lui donne un nouveau procès, c'est qu'il y a de ça quelques mois, on a appris qu'il y avait des motifs raisonnables qui permettaient de conclure qu'une erreur judiciaire aurait pu être commise, aurait pu se produire. On a donc libéré sous condition, en attendant le retour du ministère de la Justice, à savoir on lui donne-tu un procès ou pas. La décision est arrivée ce matin. Il va avoir un nouveau procès. L'intervention policière d'hier à Beauport a mené à la saisie de plusieurs qui de différentes drogues à l'arrestation de 3 suspects. En plus d'une entreprise Métal Beauport à Québec qui est maintenant fermée depuis 2024, les policiers ont ciblé 2 appartements de Montréal et Laval. Métal Beauport qui a eu un lien par le passé avec les Rock Machines, un groupe de motards, avec son commerce qui appartenait jusqu'en 2024 à Raymond Bouchard. Et je termine avec la Ville de Québec qui prévoit implanter un deuxième quartier de mini-maisons pour personnes itinérantes, nous apprend le Soleil. Après le succès du premier projet dans le parc au bus d'Estimoville. On voudrait maintenant en implanter un deuxième derrière les galeries Charlebourg. Ces mini-maisons visent à accompagner les personnes en situation d'itinérance dans leur processus de réhabilitation avant de leur trouver un logement permanent.
Et c'est la nouvelle qu'on s'en va aborder avec nul autre que le spectaculaire Éric Boulay de l'Aube-Rivière. Je l'appelle le spectaculaire Éric parce que tabarouette qui travaille fort dans des conditions vraiment pas faciles. Puis en plus, à l'aube de ses vacances, il travaille pas dans la construction, mais à l'aube de ses vacances avec tout le monde, il a décidé qu'il passait en studio pour venir commenter tout ça avec nous. Salut Eric.
Hey, bonjour.
Merci en ce vendredi de te déplacer. Je te voyais hocher la tête aussi là, quand on parlait de Metal Beauport puis des perquisitions de drogue. C'est sûr que c'est interconnecté avec ce que tu fais là.
Absolument. La crise des opioïdes dans la rue fait des ravages présentement. Puis les gens, des fois, dans le processus de survie pour soigner leurs souffrances, vont consommer. Puis souvent, ce qu'on trouve dans la rue, c'est des choses... Les tests que nos collègues, le SABSA et compagnie, font sur la drogue, là, en fait, les gens pensent consommer quelque chose, puis souvent, c'est pas ce qu'il y a là-dedans. Alors, il y a plein de risques. D'abord, c'est très, très addictif rapidement. C'est accessible, c'est pas cher, mais tu sais, il y a des risques d'overdose là, très, très grands.
Ou en fait, de scraper sa santé à vie. Là.
Absolument.
Des fois, il suffit d'une consommation, d'une affaire dégueulasse, puis j'aime mieux le dire comme ça, dégueulasse.
Absolument.
Puis c'est terminé. Souvent, ces mécréants-là, ces criminels-là, ben c'est fait semi dans un garage. On coupe le plus qu'on peut avec des produits chimiques pour que ça nous coûte le moins cher possible, mais le vendre à fort prix et ou le vendre rapidement à moindre prix. C'est spectaculaire en ce moment ce qui se passe avec la crise des
opioïdes. Il ne faudrait pas avoir le préjugé que toutes les personnes en situation d'itinérance sont aux prises avec des problèmes de dépendance. C'est souvent le fait que tu sois dans la rue qui va développer des problèmes de dépendance. On ne sait pas si c'est la poule avant l'œuf. Là. C'est important de se le rappeler. Là.
C'est vrai que c'est important, puis on essaie de le marteler le plus souvent possible ici à Boulevard 102.1 parce qu'on te parle souvent. Puis je me souviens, on s'est connus dans ces dispositions-là, mais j'étais venue faire un petit vox pop à l'Aubrivière, puis il y avait bien des gens qui s'étaient confiés sur comment ils sont arrivés dans la rue. Et là, c'est avant la pandémie, facile. Puis ces gens-là, c'était pour beaucoup des choses que tout le monde vit. Là. Être en attente de notre prochaine paye quand elle vient de rentrer, c'est le scénario que bien des Québécois, des gens de Québec vivent. Pas parce qu'ils font des dépenses fulgurantes, c'est parce que le coût de la vie a tellement augmenté, les loyers coûtent cher. Il suffit d'une maladie, d'une mauvaise assurance, d'une bad luck, d'une séparation pour que l'itinérance soit assez près de nous, finalement.
En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui arrive, c'est que les populations sont de plus en plus vulnérables parce que le budget qu'ils mettent sur le logement et l'épicerie font que, bon, c'est plus dur d'arriver. Et justement, quand arrive un événement comme ça, tu vas basculer des fois vers l'itinérance. Et quand on questionne les gens qui nous viennent, là, c'est souvent ça. Là. Des fois, de moins en moins, il y a des conditions sous-jacentes. Tu sais, on parle santé mentale, dépendance. Puis c'est des gens qui fonctionnaient, qui ont même un travail, des fois, qui arrivent à l'Aubrivière parce qu'ils n'arrivent plus à payer le logement. Alors ça, c'est triste. 70 % des personnes qui ont frappé à la porte de l'Aubrivière dans les trois dernières années étaient des personnes qui n'avaient jamais connu l'itinérance. Et ça, par année, là. Dans les trois dernières années.
Fait qu'on essaie de trouver des solutions. T'sais, toi, à temps plein, tu travailles pour alléger la vie de ces gens-là ou encore leur donner un petit répit à l'Aubrivière. C'est un organisme qui existe depuis toujours. Là, les gouvernements essaient d'être un petit peu créatifs. À Montréal, on est allé de la créativité de tolérer des campements. Ça fait beaucoup réagir à Québec. Bruno Marchand a dit non, ça ne sera pas possible à Québec. On apprenait dans l'actualité que c'était environ 77 000 $ par personne itinérante au Québec annuellement pour s'en occuper. Puis là, on prend tous les organismes, on prend la santé publique, on prend les interventions policières. Puis un expert de cette étude-là qui nous disait hier, bien, il manque même de l'argent. C'est arrondi à la baisse parce qu'on n'a pas le calcul des dépenses municipales là-dedans. Puis ça augmente. On est rendu en 2026. Les dernières statistiques qu'on a, ça date de 2022. Toi, t'es-tu surpris d'un montant aussi haut pour une personne itinérante?
Non, je suis pas surpris. Puis en fait, c'est sous-estimé. Puis l'étude, elle date déjà, là. Ça fait quelques temps. C'est
2022.
L'étude de M. Latimer, là.
Oui, exact. C'est à lui qu'on a parlé hier.
Ah oui, bon, super. Alors, qui est très, très crédible puis très professionnel dans cette affaire-là. Là. Puis tu sais, ça date déjà, cette étude-là. Alors, ça doit être encore bien plus aujourd'hui. Alors, l'inaction, rien faire, ça coûte cher, c'est certain.
Ça coûte cher, puis même M. Latimer, hier, disait en entrevue, parce qu'il commentait les campements en disant hey, « c'est pas l'idée là, pour la suite des choses », selon lui, parce que souvent, ça amenait... le politique n'a pas nécessairement forcé pour trouver quelque chose d'autre rapidement pour la suite, soit des endroits comme l'Aubrivière ou encore des politiques qui vont nous aider à les loger. On tolère ça grossit, ça s'organise, ça devient un endroit où justement les gens qui font de la vente de stupéfiants spotent les endroits, commencent à vendre à côté dans ces endroits-là, donc plus de consommation. C'est difficile de jaser de ça. Donc, une solution qui a été amenée, c'est d'avoir des mini-maisons à Québec. Là, pour le projet itinérance ici, c'est un deuxième quartier de mini-maisons qui serait implanté à Charlebourg. On prévoit faire ça du côté des galeries Charlebourg, juste en arrière. Et selon les premières informations qu'on a de différents médias, bon, Le Soleil, Radio-Canada, on confirme que le site a été choisi. Donc, c'est celui entre le boulevard Henri-Bourassa puis la Première Avenue. D'abord, est-ce que tu trouves la localisation intéressante?
Très intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, l'itinérance, on l'a déjà dit, là, de tout centraliser au même endroit, ce n'est pas la solution. Oui, ça prend des grands centres comme l'Aubrivière, mais ça prend aussi des portes de sortie, des leviers. Et l'itinérance prend de l'ampleur souvent en périphérie. Alors, il faut développer des services là où les gens sont. Ça, c'est très important.
Puis ça, c'est un endroit stratégique.
Ben, oui, puis l'autre chose que je trouve intéressante, d'abord, pour les déplacements, c'est facile. Il y a le métrobus proche pour les intervenants et accompagner les gens, parce qu'on sait que dans les modèles des mini-maisons, qui est un modèle qui a fait ses preuves là, à Beauport. Puis, c'est, en fait, là, c'est la crise du vivre ensemble que peut créer le développement de nouveaux outils en itinérance. Bien, elle est amoindrie par le fait que là, on est dans un terre-plein en dessous des pylônes électriques.
Ouais,
en dessous
ouais.
des pylônes électriques.
Okay,
en fait, là, c'est, j'ai su en m'en venant que c'est entre la première avenue et la deuxième avenue. À côté de la 41e rue.
Oui,
là,
ou le parc au bus. Là.
Juste à côté du stationnement.
OK, c'est ça.
Du parc au bus.
Okay.
Juste à côté. Alors, tu sais, là, il ne se passe rien. Là. Alors, tu sais, c'est moins, tu sais, ça peut moins déranger, par exemple, dans le vivre ensemble et tout ça.
Oui.
Quoique, les mini-maisons à Beauport, là, on n'a pas. Les gens qui restent proches n'ont pas senti.
Ça, on n'a rien entendu encore.
Non, exactement,
on rien
c'est
entendu.
Ça. C'est un succès, hein, vraiment. Moi, là, je...
T'es-tu
avec les partenaires,
visiter?
Là...
T'es-tu allé
oui,
voir
oui.
comment ils sont organisés? Parce que là, c'est une dizaine de mini-maisons qui seront dans ce quartier-là, mm-hmm. celui qu'on vient d'annoncer, d'ici juin l'an prochain.
Ouais.
Toi, celle que tu as vue à Beauport, ça te dit quoi?
Bien, c'est super bien fait. Un, c'est super bien fait. Puis deux, tu sais, l'itinérance, là, ça s'est installé pas d'un boom, hein? C'est tranquillement. À l'Aubrivière, là, il y a une augmentation de 10,6% du nombre de demandes depuis 2017. Et cette augmentation-là, s'est faite graduellement. Pandémie, pas pandémie. C'est vraiment des facteurs extérieurs, comme je dis, accès au logement, perte du pouvoir d'achat, perte de l'accessibilité aux services. On le voit aujourd'hui, hein, aux services publics en prévention. Là. Si tu as des problèmes de santé mentale ou physique, c'est plus dur maintenant d'avoir accès à des services. Toute cette amalgame-là fait que d'année en année, ça vient. Alors, moi, je pense que les solutions doivent être multiples, puis on n'aura pas une solution magique qui, du jour au lendemain, va enrayer tout ça. Par contre, l'ensemble de solutions, comme les mini-maisons, mais comme d'autres choses aussi, porte-clés est venu ici, c'est accompagnement dans le logement privé. Je ne sais pas, moi, à l'Aubrivière, on a la fiducie où les gens gèrent leur budget. Il y a le programme Prisme où il y a un psychiatre qui accompagne les gens. Et
ça, il y a des ressources qui se déplacent dans les quartiers de mini-maisons pour personnes itinérantes.
Oui, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement des gens parce qu'il faut savoir que le modèle des mini-maisons, c'est transitoire. Les gens ne s'installent pas là permanent. Moi, je sais que les gens qui ont transitoire, par là, maintenant, sont en logement puis ils vont bien. Alors ça, s'ils vont bien, c'est un succès, là.
Puis le secret, c'est-tu ça, un peu, de réussir à donner un accompagnement à ces personnes-là tout en leur laissant une autonomie à travers ça?
En fait, là, les solutions, ils sont vraiment multiples. À l'Aubrivière, là, 50 % des gens qui viennent, quand on les remet sur pied chez nous, après, ils n'auront plus besoin de suivi, là. Maintenant, il y a un autre 40 % qui, eux, ce genre d'outils-là, porte-clés, mini-maisons, tout ça, avec l'accompagnement dans tes démarches, va être très efficient pour ces gens-là. Maintenant, il y a aussi des gens en itinérance plus chronique que là, on a besoin un peu plus de, je te dirais, d'huile de bras, là,
ouais.
Tu sais, avec, je pense à prix, je pense à bien des choses. Alors, c'est pas simple, puis les solutions doivent être multiples. Le grand danger, là, des politiciens, des décideurs, ça serait de tout mettre les billes dans la même piste de solution.
En pensant que tout le monde va adhérer, en pensant que
exactement,
tout le monde va suivre le
pas. Exactement, c'est ça. Par contre, chaque nouvelle ressource qu'on ajoute, pour moi, c'est un pas dans la solution, surtout dans le logement et l'hébergement, qui est la majeure pour précipiter les gens.
Qu'est-ce que tu répondrais à des gens qui disent « Ouais, ben là, c'est leur donner une solution qui nous coûte de l'argent. Ils vont peut-être s'appuyer là-dessus. Tu répondrais quoi, toi, à ça? »
Bien, deux choses. D'abord, quand on accompagne une personne en situation d'itinérance, un, on la rend pas misérable, là. On la prend pas par la main comme un enfant, là. On accompagne un être humain qui a perdu ses repères, puis on lui donne des outils. Puis quand la personne, avec le lien de confiance qu'on a, elle ne se mobilise pas, bien, on lui dit, là, on est son reflet, tu sais, on laisse pas les choses aller quand on donne une mini-maison comme ça, là. C'est pas, je te donne ça, puis organise-toi tout seul. Alors, il y a bien plus de chances. Puis là, j'avais dit deux affaires. C'était quoi l'autre affaire? Ah oui, le coût de l'inaction, on le dit. Mm-hmm. Si on fait rien, monsieur et madame, tout le monde qui dit on prend de l'argent public pour ça, bien, on en prend déjà. On en prend dans les soins hospitaliers d'urgence, on en prend dans les services de police, on en prend dans les services d'urgence, parlez-en aux paramédics, qui sont ultra coûteux et qui n'en règlent rien.
C'est une pensée magique, tu penses, de se dire, ben, prenons 77 000 $ évalués qui en coûte aux contribuables pour s'occuper d'une personne en situation d'itinérance annuellement, puis là, c'est en deçà de ce que ça coûte maintenant.
Absolument.
En 2026. Là. Est-ce que c'est une pensée magique de se dire, ben, on prendrait ce montant-là, puis garde, on divise ça en plusieurs, puis on les sort de la rue, puis on leur paye un loyer, puis on... C'est pas aussi simple que ça.
Si c'était seulement une question d'argent, je te dirais oui, mais tu sais, si on avait tout l'or du monde, il y aurait aussi... C'est plus compliqué que ça, tu sais. Il y a
des gens qui veulent pas en sortir, là.
Moi, je suis pas prêt à dire ça. Vas-y. Je comprends ce que tu veux dire par là, mais tu sais, quand t'as mal une dent, là, tu sais, mais avancer. Quand tu... Tu sais, tu dis là, je vais l'arracher, cette dent-là. Tu te rends pas compte que peut-être qu'il y a des traitements qui vont t'empêcher. Tu sais, une couronne, je sais pas, n'importe quoi, je connais pas les dents, là, je sais quel exemple, là. Mais ce que je veux dire, c'est... Tu sais, des fois, les solutions, les gens qui sont dans la rue, ils les voient plus. Fait que pour eux, bouger, ça fait plus de sens.
Donc, arracher la dent, pour eux, c'est de rester dans l'itinérance.
Non, exactement. C'est lâcher prise. Puis souvent, okay. Les gens qui viennent chez nous, ils n'ont pas le choix. Ils ont froid, ils ont faim, ils ont jeté. Alors, c'est le reflet de dire, on va transformer ça en positif. Alors, la question de « ils ont choisi », c'est que pour eux, changer les choses, ça fait pas de sens. Mais tu sais... En créant un lien, en accompagnant les gens quand on a des ressources. Et là, ce qui arrive maintenant, c'est dans la rue, même les travailleurs de rue que je connais bien, même quand il y a un bon lien, ils ont plus ces portes de sortie-là. Mm-hmm. À Lauberivière, il y a un entonnoir présentement. La durée d'hébergement moyen, l'hébergement d'urgence, était de 7 à 11 jours. En 2024, c'était rendu à 21 jours et en 2025, 28 jours. Alors, on le voit là. Puis moi aussi, je rêve pas seulement. Là, on parle de mini-maisons et de projets qui marchent, mm-hmm. qui fonctionnent. Mais on peut-tu en amont aussi réfléchir pour qu'il y ait moins de personnes qui tombent en itinérance? Fait qu'il faut pas
pénurie
juste penser...
Pénurie de logement, les Exactement. Enfants de la DPJ, mmh. les enfants qui n'ont pas d'outils, les personnes qui sont dans de la violence conjugale. T'sais, on pourrait en mettre beaucoup des exemples de gens qui se ramassent à la rue. Peut-être pour terminer cette conversation-là sur ouais. les mini-maisons, Éric Boulay de Lauberivière, quand on parle de campement, tu sais, M. Latimer de l'étude du 77 000 $ nous disait hier, selon lui, c'est pas nécessairement l'option. Est-ce que pour toi, c'est une option de garder des campements dans la ville de Québec ou vraiment faut se diriger vers quelque chose qui est construit comme des mini-maisons, mais en même temps, ça accueille pas tout le monde. Toi, tu peux pas accueillir tout le monde à Lauberivière. On se gratte la tête, là.
C'est pas... Je te dirais pas je suis pour ou contre les campements. Là. Ça, c'est un faux débat médiatique qui polarise puis qui vend de la gazette, comme on dit. Il faut savoir que quand il y a des gens qui sont dehors, des fois, c'est un manque d'alternative. Mais en même temps, en effet, de dire on laisse les gens aller sans offrir de service parce que c'est ça qui arrive exactement ça aussi. Alors, prendre position d'un bord ou l'autre, c'est un échec. Mmh. Pour moi, c'est un faux débat. C'est comme le débat sur la loi 23, là, P38, là, qui dit quand quelqu'un est en danger pour lui-même ou pour les autres, on devrait resserrer les critères.
Oui.
Alors, encore une fois, c'est un faux débat. Personnes qui, quand ils sont volontaires, voudraient avoir des soins, s'ils les auraient en amont, on n'aurait pas besoin de changer des critères pour les aider quand
t'as
ils ont
lâché prise.
T'as
l'impression que cette loi-là... Oh, mon... Oui, là, j'ai
ouais,
très
c'est ça.
Alors,
moi, j'ai pas.
Attends, on va juste...
Moi, je suis un simple aubergiste qui accueille des gens et qui donne de l'aide. Alors,
à boire,
mon opinion, c'est campement et tout ça, là, ça me dépasse. Ça.
Mais ouais. Tu mets le doigt sur quelque chose, je peux pas te laisser partir en vacances sans ça. Tu viens de m'ouvrir une grande porte qui, moi, avait pas fait de cheminement. Okay? Ouais. Cette nouvelle loi-là qui fait en sorte que si on craint pour la santé et la sécurité d'une personne, on peut appeler les services, les autorités, puis dire ouais. « Hey, on a besoin immédiatement d'assistance. » Puis on peut forcer cette personne-là à être hospitalisée plus de 72 heures, donc d'avoir un traitement X, Y, Z pour s'assurer qu'il n'y a pas de drame qui s'ensuive pour la personne ou pour les gens autour. Quelqu'un de désorganisé qui ne prend pas sa médication. Ça, c'est sorti effectivement dans les derniers jours. Ça peut amener du bon quand une personne est rendue désorganisée ou est en psychose ou quoi que ce soit, puis elle n'est plus capable de se gérer, donc désorganisée. Mm-hmm. Mais tu te dis, toi, parfait, Vous faites cette loi-là, mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes dans ces gens-là qui, au départ,
absolument,
voulaient des services. Ouais. Et puisque c'était inaccessible, qu'on manque de personnel, qu'on a une pénurie de ci, de ça, qu'on n'a pas d'hôpitaux, peut-être, qui sont ouverts à amener des gens, quand même ça va bien, mais qui veulent se prendre en main, ça, c'est un problème.
Oui. 20 % des Québécois vont vivre à un moment donné dans leur vie un épisode de santé mentale plus fragile. Soit une dépression majeure, soit, tu sais, on en connaît tous, là. On connaît des gens proches de nous présentement. C'est difficile pour eux d'aller consulter, tu sais, de piler sur son orgueil, d'aller chercher de l'aide. Oui, oui. Ils pensent que ça ne fonctionnera pas. Quand tu crées un lien puis que la personne t'appelle un matin pour dire « OK, c'est maintenant ». Je vais aller chercher de l'aide. Là, j'ai une amie là, qu'on a réussi à convaincre qu'elle y va. Puis quand on l'a accompagnée, bien, ça n'a pas marché. C'était difficile l'accès. C'était difficile d'être pris en charge. Fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Je savais que ça ne marchait pas. T'sais, fait que là, elle ne veut plus y aller. Fait que si ça aurait fonctionné à ce moment-là, si le traitement aurait été adéquat.
Ouais, c'est de faire une loi pour le contexte de dernière minute au lieu d'avoir...
Mais il faut, faut faire attention dans cette loi-là. Par contre, il ne faut pas que ça soit parce que des gens dérangent dans la rue. Ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'aider les gens avec la réforme de cette loi-là. Puis quand Mme Gamache, la chef, la présidente de la Société Biscarde, défend ce principe-là, elle, je sens sincèrement que c'est pour aider. Il ne faut pas oublier ça.
Je termine avec toi, Éric Boulay de l'Aubrivière, parce que j'ai reçu un texto du bipolaire de Saint-Roch. Là, en termes d'opinion, ouais, bien sûr. Ben Yannick, ce matin, puis il me le redit, puis se pose une question à savoir si l'itinérance, c'est une business en soi. Parce que il y a un roulement d'argent en arrière de ça. Ça fait vivre des mm-hmm. organismes. Ça fait rouler une certaine économie. Ou, y a-tu un angle derrière ça, toi, qui te donne envie de commenter?
Ben moi, ce que je sais, c'est que les gens qui travaillent à l'Aubrivière gagnent beaucoup moins que ce que les gens pourraient gagner dans le réseau public en termes de salaire. Puis c'est pas chic de parler de ça, là. Mm-hmm. Ça serait plus mes collègues.
Mais t'aimerais-tu ça ne pas exister, toi, avec
exactement,
l'Aubrivière?
Exactement, c'est ça. Puis tu sais, bien sincèrement, moi, j'en ai eu plein d'offres, là. Tu sais, je commence à être connu, tout ça. Puis je reste là parce que c'est la mission qui m'habite. Puis à l'Aubrivière, c'est une mission. J'ai jamais vu ça comme une business, là. Je vois vraiment ça comme une mission, une vocation pour faire la différence, pour aider les gens, les accompagner. Puis notre salaire, notre vrai, là, c'est quand ça marche, puis quand il y a un sourire avec les gens, puis quand ça fonctionne des fois, puis même plus souvent qu'autrement, ça fonctionne. Et ça, c'est notre paye, vraiment. Là. Alors, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent là-dessus. Là, alors, si c'est ça, enlevons tous les services, et watch out, là, ça sera plus 77 000 par personne là, par année. Là, ça va être beaucoup plus, ça va être exponentiel. D'ailleurs, j'en profite, tu m'ouvres une porte. Si, tant qu'à faire vivre la business, l'itinérance, comme tu dis, les besoins sont aussi grands l'été que l'hiver. Hein. Les gens qui veulent nous aider, l'aubrivière.org pour faire un don, ça nous aide grandement. Ça, chaque bout de sou nous aide à accompagner les gens, acheter des denrées, supporter les gens. Maintenant, on a une grande offre de services pour aider. Puis ce qu'on fait, ça fonctionne.
Merci, Éric. C'était un bonheur d'avoir partagé le micro avec toi. Je te souhaite de belles vacances.
Merci.
Pour le peu que tu as.
Ça m'a fait plaisir d'être là.
Décroche parce que tu vas revenir encore plus en forme. Puis je sais que beaucoup de gens ont besoin de toi. On apprécie ce que tu fais à Québec, Éric Boulay, directeur de l'Aubrivière. Toujours des belles conversations humaines.
Merci.
Merci. Vous êtes dans On en jase. On revient dans un instant. Mathias, entre autres, tu vas nous faire une petite tournée du sport. Puis on finit l'émission avec la qualité de l'air. Ça impacte-tu nos voies respiratoires? Quand on a connu l'apocalypse là, cette semaine, puis que la Ville de Québec disait que la qualité de l'air était encore très bonne ici à Québec, on peut-tu se poser des questions? Comment on définit qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise? Vous êtes à Boulevard 102.1 avec Mathias Turcotte et Pascal Cévé. On revient.
Jusqu'à 14h.